on a besoin de l'eau. Il faut préserver cette eau-là, il faut de l'eau en quantité et il faut de l'eau de qualité. Voilà donc le sujet de cette table ronde qui est intitulée « L'eau, un bien commun à défendre et les citoyens dans tout ça ». Donc au-delà de sa source, les enjeux sociétaux sont de connaître et de comprendre les instances multiples qui vont administrer l'eau, son usage, son partage et aussi donc la place du citoyen dans ce débat précis. Et pour en discuter autour de cette table, nous avons Nicolas Clerc, paysan. Il est également à l'initiative de la démarche du forum départemental des citoyens de partage de l'eau qui s'appelle Partage Eau, au tiers-lieu Le Treuil. Michel Coudroy de Eau et Services Publics et Philippe Huillard de France Nature Environnement. On va commencer simplement. Je vous propose de vous présenter et peut-être expliquer pourquoi vous êtes présent autour de cette table ronde-là, cette question de l'eau. Philippe, allez-y.
Alors, l'eau, ça vient d'être dit, c'est fondamental. Hein. 3 jours sans eau, on meurt. On peut manger moins, mais l'eau, c'est vital au quotidien. Et puis l'eau, il y a un grand changement que l'on avait un petit peu anticipé, mais que beaucoup ont négligé, c'est qu'on a un tout autre modèle. L'eau a énormément changé dans son statut, dans sa disponibilité, et on l'a beaucoup négligé. Donc il faut revenir aux fondamentaux et aux fondamentaux de la nature, puisque je dis France, nature, environnement, c'est ce que je développerai un petit peu. L'eau dans la nature, comment est-elle? Comment on l'a méprisée à un moment? Comment on a cru que ça marchait tout seul? Et comment, au contraire, il faut radicalement changer pour qu'à la fois cette ressource soit préservée? Parce qu'on souvent, on nous dit, ah, mais l'eau, il y en a toujours autant sur la Terre. Oui, mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui est à proximité, qui est utilisable, qui est buvable. Il y a une question de santé publique, il y a une question de justice et une question d'environnement tout court, pas seulement pour les hommes, mais pour la nature.
Alors, Nicolas Clerc, vous, l'eau dans votre activité au quotidien, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Oui, alors moi, je suis paysan irrigant. J'utilise évidemment de l'eau. Et justement, comme la plupart de mes collègues, nous avons été faussement habitués à avoir de l'eau à disposition. Tant qu'on en voulait, on en avait. Il suffit de mettre une pompe plus grosse, il suffit de faire un trou plus profond, il suffit de solliciter un abonnement plus important au canal du Forêt et on peut utiliser 10 000, 20 000, 100 000 mètres cubes d'eau à notre convenance. Et je me rends bien compte, les années avançant, que cette solution, enfin ce faux sentiment de disposition illimitée est évidemment faux, puisque l'eau est une ressource limitée. Que les citoyens acceptent de moins en moins que certains s'accaparent l'eau, comme ça a pu être le cas jusqu'à présent, et qu'il va donc falloir construire un nouveau modèle de partage démocratique, équitable, où chacun devra comprendre les positions des autres, les usages des autres. Et dans ce cadre-là, il va falloir qu'on parle sereinement de l'eau, qu'on dise ce que chacun en fait, pourquoi il en a besoin, quels efforts il est prêt à faire, quel partage il est prêt à accepter. Et si chacun s'écoute, on peut espérer, peut-être, avoir une solution pacifiée à ce partage.
Alors, Michel Coudroy, Eau et Services Publics, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une association aussi qui est née en 1994 à l'occasion du passage au privé de la partie distribution de l'eau potable. Il faut savoir que dans les villes, il y a 3 parties dans la gestion de l'eau. C'est l'eau brute en amont, la distribution de l'eau potable et puis l'assainissement. La question, c'est est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça? Normalement, depuis toujours, on a senti que l'eau est tellement vitale que c'est naturel que ce soit un service public pas préoccupé par les questions de faire de l'argent. Mais il se trouve qu'il y a eu des modes de libéralisation dans différents domaines. Et en France, il y a même eu des montées de multinationales de l'eau. Et à un certain moment, les politiques se sont demandé si ça leur coûterait pas moins cher de confier des parties de cette mission à des multinationales de l'eau qui disent faire la chose pour moins cher, mais en faisant beaucoup de marge. Donc il y a quelque chose de paradoxal. Peut-on faire moins cher en faisant plus de marge? Oui, en négligeant les questions environnementales, les questions d'intérêt public qui sont un peu négligées du coup. Donc voilà, le sentiment dès 1994, c'est que le passage à la concession au privé d'une partie essentielle, ça pose problème. Et bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toujours est-il que progressivement, l'eau... On a vu qu'elle risquait d'être une ressource rare et qu'il fallait préserver. Et donc, au service public lui-même qui se préoccupait voilà, d'être près des gens qui reçoivent la facture et de voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, etc. C'est préoccupé aussi de la ressource en général, de quantité, qualité, etc. Pour cela, c'est rapproché de Aux Citoyens de Bien Commun, qui est un collectif qui l'englobe. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase où, en gros, pour le dire en deux mots, il y a deux parties qui sont privatisées. Hein, en quelque sorte, c'est la partie eau potable et la partie assainissement. Et le changement récent, en gros, ça consiste à mettre Suez à la place de Sor et Sor à la place de Suez dans ces deux parties. Donc, on n'avance pas beaucoup. Et par contre, ça passe au niveau métropolitain, ce qui rend les choses encore plus éloignées du citoyen. Donc il faut vraiment que le citoyen se réapproprie ces enjeux de la gouvernance de l'eau dans la métropole. Et puis, comme c'est tout le bassin versant de la Loire qui nous intéresse, on participe aussi à Partage Eau.
Alors, on a dit à la préparation de cette table ronde qu'on allait reprendre les basiques. Et puis, vous l'avez cité, il faut remettre à plat. L'eau douce, qu'est-ce que c'est ? Qu'on comprenne bien comment on l'a définit ?
Alors, l'eau douce, c'est une très petite quantité de l'eau sur Terre, parce que l'essentiel est de l'eau salée. L'eau douce, il y en a très peu, et très souvent, elle est très peu accessible. Alors, l'eau douce, on peut prendre un exemple aussi ou des chiffres, hein, j'en donnerai très peu, mais l'eau douce, ça commence par la pluie. Et quand on pense à la pluie, on pense que quasiment toute l'eau qui tombe avec la pluie, on va pouvoir l'utiliser. Eh bien, c'est tout à fait faux. L'essentiel s'évapore, hein, 65% de l'eau de pluie s'évapore tout de suite, à peu près 25% ruisselle, et le peu qui reste, même pas 10%, s'infiltre dans les sols. Mais quelle infiltration, quelle perméabilité des sols, c'est ce qui est important. Et comme on a modifié les sols, soit en les imperméabilisant, soit en matière agricole, en faisant des sols qui sont pas perméables, eh bien, on provoque plus de ruissellement et on ne permet pas à la ressource importante de s'infiltrer en se filtrant aussi naturellement. Donc il faut revoir tous les modèles en remettant beaucoup plus de végétal. On parle des haies, des arbres et des racines. La forêt, elle va faire pleuvoir. Au-dessus de la forêt, il y a de l'évaporation, il va en retomber. Et puis les racines permettent l'entrée dans le sol en douceur. Donc c'est ces modèles-là qu'il faut complètement revoir. Avant, la logique, c'était on a un terrain, on le draine, il faut vite que l'eau aille à la rivière. C'est ce modèle qu'il faut complètement revoir. Donc ça suppose un changement de culture, ça suppose un changement d'approche. Et puis ça supposera aussi une définition des besoins. Quels sont les besoins essentiels ou pourquoi faut-il garder l'eau et pour faire quoi ? Voilà un peu les éléments. Mais la nature a besoin de l'eau. Nous, on a besoin de la nature avec une autre approche. Il y a vraiment un changement pour pouvoir retenir cette eau, la conserver, en la prélevant pas tout de suite, en disant « elle est là, on la prend ». Comme le disait tout à l'heure, avec une grosse pompe, on se débrouille. Non, ça, c'est catastrophique. Les modèles sont à revoir.
Alors, pour rester dans des termes, en fait, la privatisation de l'eau, restons dans cette sémantique-là. Qui sont les utilisateurs de l'eau en France ou localement ? L'industrie, les citoyens et bien sûr, les agriculteurs. Comment on se partage ? Est-ce qu'il y a une idée, un ratio, des pourcentages qui existent ?
Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que dès qu'on commence à creuser cette question de l'eau, on comprend qu'il n'est pas possible de faire réellement un camembert qui répartit la consommation de l'eau entre les utilisateurs. On voudrait arriver à un total qui fait 100%, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Prenons par exemple les paysans. Les paysans utilisent des millions de mètres cubes d'eau. Bon, ben, ça représente un certain volume. Mais le terme « utilisation de l'eau » ne veut rien dire. Un barrage hydraulique qui fait l'électricité, il utilise des millions de mètres cubes d'eau lui aussi, mais cette eau, elle est encore dans la rivière. Donc, c'est des mètres cubes qui ne peuvent pas être mesurés de la même façon. Ensuite, quand une ville utilise de l'eau, elle utilise aussi des millions de mètres cubes d'eau, mais cette eau, à 80%, elle se retrouve dans la rivière. Quand une centrale nucléaire utilise de l'eau, il y en a 10% qui s'évapore, le reste est dans la rivière, mais par contre, c'est de l'eau qui est plus chaude. Donc, l'utilisation de l'eau, c'est une eau qui peut s'évaporer, qui peut rester là et être dégradée, qui peut être ralentie, qui peut être stockée. Je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que les citoyens doivent s'intéresser au sujet de l'eau. Il faut renoncer à l'idée de se dire qu'il y a un puzzle compliqué à reconstituer et qu'une fois qu'on aura reconstitué ce puzzle, on aura tout compris de la situation et la solution apparaîtra devant nous. Non, en fait, c'est vaste. Il faut creuser, comprendre qu'il y a une foultitude d'intervenants, qu'il y a des rétroactions positives, négatives. Je vais prendre cet exemple tout bête. Dans la Loire, d'un point de vue agricole, nous, le canal du Forêt, c'est l'ouvrage qui irrigue quasiment les deux tiers ou les trois quarts du département. Il se remplit grâce au barrage de Grandjean. Enfin, il est alimenté le barrage de Grandjean. Et c'est un petit peu compliqué à se dire, mais en fait, l'eau dans le barrage de Grandjean n'a rien à voir avec la pluviométrie de notre département. En fait, le barrage de Grandjean, il remplit quand il y a des orages en Haute-Loire. Ce qui veut donc dire que le fait qu'on ait de l'eau à disposition dépend de la pluie dans un autre département et pas chez nous. Donc, c'est compliqué. Il faut creuser, creuser, creuser.
Alors, citoyen, qui dit citoyen dit société. Basiquement, est-ce qu'il y a des textes de loi référence quant à l'eau, à sa disponibilité, à sa qualité? Est-ce que il existe un article?
L'eau, il y a une directive européenne, c'est le cadre européen. Hein. Un État doit fournir une eau de qualité à ses habitants, ça c'est fondamental. Et puis après, on descend. Et quand on descend, localement, il y a ce qu'on appelle la clé, la commission locale de l'eau. C'est en quelque sorte le Parlement de l'eau. Alors, qui compose ce Parlement de l'eau? Essentiellement, les pouvoirs publics, les élus, les agriculteurs, et effectivement, il y a également France Nature Environnement, puisque j'ai cité et j'en fais partie, qui est la seule quasiment, avec les pêcheurs, qui est la seule institution qui ne soit pas un corps important avec tout un tas de pouvoirs auprès des élus. Donc, effectivement, ça pose des cadres, ça pose une organisation qui est même au niveau du bassin. Tout à l'heure, on parlait de la Haute-Loire. Hein, nous, on est dans le bassin Loire-Allier. Toute l'eau qui est concernée par le bassin versant qui finit à Nantes, a les mêmes règles. Alors, on mesure aussi, par exemple, la qualité des cours d'eau. Il y a des cours d'eau qui sont considérés comme médiocres. Ça, c'est une donnée publique que les gens peuvent connaître et se dire, tiens, pourquoi ma rivière est considérée comme médiocre? Que faut-il faire pour ça? Et il y a des financements qui sont dédiés à ça. Quand on parle de l'assainissement, si chacun regarde sa facture d'eau, il paye une taxe pour l'assainissement. Il paye une taxe pour la qualité qui va financer l'agence de Loire-Bretagne que je viens d'évoquer. Effectivement, les étages sont compliqués, mais c'est justement là qu'il faut que les gens s'impliquent davantage, comprennent ces choses qui, au départ, paraissent difficiles, qui sont quand même complexes. Hein. Et ça, je ne parle pas à mon niveau parce que moi, je ne suis pas scientifique, mais quand on parle avec des scientifiques, ils disent « Ah, moi tout seul, je ne suis pas compétent seul. » Il faut être chimiste, il faut être biologiste, il faut être hydrologue, il faut être géologue. Et ces gens-là peuvent nous dire, avec chacun leur regard, quelles sont les mesures, quels sont les éléments importants pour que nous conservions la meilleure quantité d'eau possible et puis la meilleure qualité en même temps. Voilà, donc c'est une imbrication qui peut paraître complexe, qui peut être déroutante, mais si on ne s'en empare pas, il va se passer des choses qui, en termes de santé publique, vont être dommageables.
Oui, je pourrais revenir un instant sur la question des utilisateurs. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on peut mesurer les usages respectifs? Et après tout, pour faire un bon partage de l'eau, il faut avoir des données là-dessus. Effectivement. Alors, le problème est différent en ville et à la campagne, bien sûr, puisque, par contre, il y a quelque chose d'important, c'est l'eau potable. Et donc, là-dessus, en effet, il faut que les citoyens sachent d'où elle vient, où elle va, qui l'utilise et comment. À ce niveau-là, on manque de données. Et alors, il y a plusieurs associations aujourd'hui qui se préoccupent de ça. Et pour le coup, au service public n'est pas la seule à être à la recherche de données. Il y a aussi le collectif pour la transition citoyenne de la Loire qui essaye effectivement. Et on est en contact avec les autorités métropolitaines maintenant. Et il y a même à terme une demande d'eux au service public de créer une commission extra-municipale pour que ces questions... De meilleure connaissance du circuit de l'eau, de sa quantité, de sa qualité, de son partage, puisse être débattu. Mais en amont, je ne vous cache pas qu'on a du mal à récupérer les données sur les utilisations respectives. Et ça, on en a besoin.
Lionel.
Oui, pour rejoindre cette question de l'eau potable qu'évoquait Michel Coudroy à l'instant, s'il s'agit de cartographier, justement, j'aimerais bien qu'on revienne, parce que se pencher sur cette question de l'eau, c'est se pencher sur son mode de gestion, qui est assez complexe, voire ultra complexe. Une compétence eau qui est remontée notamment aux agglomérations, aux métropoles, c'est le cas sur Saint-Étienne Métropole, mais précisément, est-ce qu'on pourrait peut-être cartographier justement et présenter un petit peu ce puzzle? Parce qu'on est dans des territoires parfois différents qui vont répondre, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, à différents bassins versants, avec des modes de gestion différents, certaines en délégation au privé, d'autres en délégation de services publics, des régies publiques à échelle communale ou intercommunale. Voilà, comment ça fonctionne aussi à ce niveau-là?
Alors, qui veut répondre? Alors, ça fonctionne. Alors déjà, on peut le redire, hein, les trois mots. Il y a eau brute, eau potable, et puis assainissement qui repart à la rivière. Donc déjà aussi, on sépare des fois ces notions. Si on prend l'exemple des 13 communes de Saint-Étienne Métropole, leur eau brute, c'est-à-dire ce qu'on voit quand on va se promener dans la nature, hein, le barrage du Pas-du-Riau, le barrage de la Valette qui est en Haute-Loire et qui alimente la Loire, ce sont en principe des territoires où normalement il y a une gestion 100% au profit de la collectivité, sans dégager de marge comme ça va être après pour l'eau potable, où les gens sous réserve d'apporter une technicité vont traiter la tuyauterie dans son détail, pas dans le fondement. Hein. Nous sommes, nous, propriétaires, collectivement, de 965 000 km de tuyaux en France. Ce sont nos, c'est notre bien public, c'est par là que passe l'eau. Mais on la gère effectivement avec des services qui peuvent suivre les délégataires plus ou moins bien. C'est ça aussi qui est important. C'est pas parce qu'on a donné une mission à quelqu'un qu'elle sera bien conduite. Ça, c'est important. Il faut avoir des services compétents et il faut que les gens se parlent suffisamment. Et puis, l'eau, c'est sur le long terme. C'est pas très vendeur. Si vous faites des tuyaux pour se faire réélire, c'est pas majeur. Donc, souvent, on a un peu négligé ça. Et notre système eau, des fois, est un peu défaillant. Et puis, j'y fuis aussi. Hein. Il y a une notion de fuite. On en a déjà pas mal entendu parler. Et dans le plan qui a été annoncé au printemps, là, il faut améliorer la performance du réseau. Ça, c'est un aspect. Donc, il y a des opérateurs différents et petit à petit, on s'aperçoit qu'il faut quand même globaliser, non pas en dépossédant les gens de leurs compétences sur leur territoire, mais il faut échanger les données parce qu'il y a une notion aussi interterritoriale de partage de l'eau au sens où, par exemple, il y a de l'eau du Rhône qui vient dans la Loire. Est-ce qu'on va pomper toute l'eau du Rhône pour des activités dans la Loire ou inversement? Il y a une notion de nécessité qui fait qu'on va s'autoriser à passer au-delà des bassins versants à certains moments. Donc la complexité, elle est grande. Hein, je réponds pas en simplifiant la question, mais en montrant qu'il y a plusieurs niveaux. Il faut s'interroger sur ces aspects-là et il faut que les citoyens, à tous les niveaux, puissent poser des questions, puissent avoir un suivi supérieur à simplement « je reçois une fois par an ma facture d'eau et puis je regarde si ça a monté ou si ça a baissé ». Parce qu'il y a une question de santé publique, je le redis. Hein, il y a ce qu'on appelle les macropolluants et les micropolluants qui sont le résultat d'une activité industrielle et d'une activité domestique qui ont modifié l'eau et qui vont supposer sans aucun doute des travaux importants, donc avec une hausse des coûts qui vont se répercuter sur notre facture, mais qui sont une question de santé publique. Voilà un petit peu tous les enjeux avec une prise de parole importante, sachant que les choses se diluent sans jeu de mots dans l'eau ou dans le temps. Il faut maintenant poser les vraies questions parce que on sait que le changement climatique est là, on sait que la sécheresse est là, on sait que les eaux ont été abîmées par endroits. Hein, on a l'exemple du Rhône là avec l'entreprise Arkema qui est chimiste, qui a mis des polluants dits éternels dans l'eau. Quelle quantité, quel problème. C'est vraiment un sujet qui, malgré sa complexité, mérite qu'on s'implique tous et qu'on regarde aussi comment on le fait. Hein, France Nature Environnement, on a des vocabulaires qui sont, par exemple, solutions fondées sur la nature. Ça veut bien dire que les solutions qu'on cherche à mettre en œuvre, elles ne sont pas des fois technologiques. Elles sont revenir à des endroits où on va pouvoir laisser l'eau, quand le niveau monte, aller sur des terrains qu'on a délibérément laissés pour ça, pour que l'eau ne divague pas tout de suite vers le bas, mais reste un moment. Il y a tout un tas de choses qui sont importantes et je le redis, il y a le végétal et il y a les sols, ça fait partie d'un tout. Il faut reforester, il faut des sols perméables, c'est ça les travaux qu'il faut pouvoir comprendre aussi. Et puis en ville aussi, il faut retrouver des terrains où on va délibérément permettre à l'eau de s'infiltrer pour pouvoir modifier, à la fois rafraîchir l'été et puis permettre que l'eau rentre dans le sol quand il y a un orage au lieu de ruisseler un maximum.
Michel, vous voulez rajouter?
Oui, je voulais juste donner un petit complément, puisque Lionel posait la question de la cartographie de la gouvernance de l'eau. Alors, à Saint-Étienne, on fait partie effectivement du bassin versant de la Loire, depuis la source jusqu'à l'embouchure à Nantes. Hein. Et donc, ça s'appelle effectivement le bassin Loire-Bretagne, et qui est lui-même décomposé en 7 grandes zones qui correspondent plus ou moins aux affluents de la Loire. Et pour ajouter un peu à la complexité, dans le département de la Loire, eh bien, il y a toute une partie, un tiers à peu près, qui est dans le bassin versant du Rhône. Il faut savoir qu'il y a un schéma directeur d'aménagement de la gestion de l'eau pour toute la Loire, hein, d'un bout à l'autre, et qu'à l'intérieur, il y a des schémas, des sages, donc, qui sont un peu plus territorialisés. Et là-dedans, effectivement, quand on parle de privatisation, il y a une gestion différentes de la gouvernance de l'eau potable et de la gouvernance des puisages que peuvent faire les agriculteurs par ailleurs, etc. Bon, donc il y a tous ces schémas qui sont imbriqués. Il y a quand même un bon point là-dedans, c'est que la plupart du temps, l'eau est considérée comme un commun et donc il y a plusieurs partenaires à tous les niveaux. Sauf que tous les partenaires n'ont pas autant de voix et ça, ça pose des problèmes si, voilà, si, si les intérêts sont mal partagés.
Alors, en prenant quelques notes, j'avais aussi lu les comités de bassin, aussi avec une représentativité sur un certain pourcentage entre les élus des collectivités à 40%, les représentants des usagers de l'eau, des industriels, les agriculteurs, associations de défense de l'environnement et l'État qui gouverne ça a priori à 20%. L'eau, on l'a dit tout à l'heure, c'était ce bien commun, interconnecté, ces réseaux qui se rejoignent à des endroits. Et puis, on a eu, il y a quelques mois, cet événement à Sainte-Soline et ces méga-bassines où là, on s'accapare l'eau. On s'accapare le bien commun. C'est aussi ça le mouvement citoyen qui se met en place. Ces questions-là de méga-bassines, par exemple, vous l'entendez comment ?
Alors, je vais répondre. Très mal. D'un point de vue agricole. Alors, dans le département de la Loire, nous sommes heureusement épargnés par cette dérive qu'on peut voir dans les Deux-Sèvres, notamment des méga-bassines. Dans la Loire, pour faire simple, il n'y a pas de méga-bassines. Il y a des projets de méga-bassines dans le Puy-de-Dôme. Mardi, il y a une manif à côté de Clermont-Ferrand. Ceux qui veulent venir sont invités. Dans la Loire, on a des toutes petites bassines qui sont plutôt faites à taille humaine, qui sont relativement acceptées par les citoyens. Ce sont, dans la Loire, des bassines qui sont non plastifiées. Donc, il n'y a pas ce côté artificialisation des sols. Ce sont, pour l'immense majorité ou pour la totalité que je connais, des bassines qui ne sont pas remplies en puisant dans la nappe phréatique, mais théoriquement, ça demande d'être contrôlé, en prenant l'eau des rivières, en théorie, en hiver, lorsqu'il y a beaucoup d'eau. Donc, pour le moment, on est préservé de ces dérives. Et un point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est que si dans certains départements, les citoyens se lèvent contre les bassines, c'est comme de fait exprès dans les départements où l'agriculture a le plus saccagé les paysages. Le Marais Poitevin a été vraiment très très dégradé par la profession agricole, hein, ça sert à rien d'accuser les autres. C'est la profession agricole qui a arraché toutes les haies, tous les arbres, qui a asséché pratiquement deux départements autour du Marais Poitevin. Et les citoyens, voyant ces paysages extrêmement dégradés, n'acceptent plus les bassines qui pour eux sont l'événement de plus, l'accaparement de plus de l'eau qu'ils n'acceptent pas. C'est pas le cas dans notre département, ça viendra peut-être un jour, hein. Le changement climatique fait que la ressource en eau devient de plus en plus indispensable pour l'agriculture et la profession agricole, j'en fais partie, je me mets dedans, a toujours tendance à considérer qu'elle est évidemment prioritaire, puisque nous nourrissons les Français, nous sommes évidemment prioritaires pour l'eau. On se rend bien compte que ceux qui font l'adduction d'eau potable sont eux aussi prioritaires, que les poissons dans les rivières sont, j'imagine, si on leur demandait, ils considéreraient qu'ils seraient eux aussi prioritaires. La nature en général doit également être prioritaire. Bref, tout le monde est prioritaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous ces organes de consultation dont vous parlez, qui sont censés gérer l'eau, jusqu'à présent, ils ne géraient rien puisque l'eau était à disposition, on en avait à volonté. Donc on avait un système qui en fait tournait tout seul. Désormais, on arrive en situation un peu plus conflictuelle. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a des situations d'acquis, des situations de rente. Il y a des positions où certains ont plus d'eau que d'autres, d'une profession à l'autre, voire même dans chaque profession. L'intérêt de chacun, c'est de garder sa position. Il faut donc comprendre que si on veut que les choses changent et de façon intelligente, ça doit être politisé. Et les politiques qui sont censées piloter tout ça n'auront du courage que si ça intéresse les citoyens. Si les citoyens se désintéressent de l'eau, les politiques n'auront pas le courage de peser, de tordre le bras à certains, d'inciter, d'accompagner d'autres, d'aider certains à faire évoluer ou leurs pratiques ou leurs besoins. Et donc, à la fois, on dit l'eau, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est trop compliqué. Et en même temps, on dit les citoyens doivent s'y intéresser, parce que c'est si les citoyens s'intéressent à tout ça que les politiques auront le courage, se sentant surveillés par les citoyens, de prendre des décisions importantes.
Alors d'où cette initiative citoyenne avec Partage Eau, ce forum de l'eau, première édition il y a quelques mois et une seconde à venir. Revenons un peu sur ce forum-là de l'eau, forum citoyen. Qu'est-ce que vous avez discuté en résumé sur cette première édition et puis après comment on enclenche le mouvement pour alerter et pour faire prendre conscience les politiques de cet engagement citoyen ?
Alors, je vais répondre très rapidement, après je laisserai la parole à mes collègues. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce forum, ça a été l'occasion de faire se succéder à la tribune des gens qui ne se parlent et qui ne s'écoutent jamais. On a pu voir les environnementalistes parler du problème de l'eau et du réchauffement climatique, les syndicats agricoles qui ne sont pas d'accord entre eux, la Fédération française de golf de la Loire, qui a un message très particulier à entendre et à donner, les forestiers, les pompiers, l'adduction d'eau potable, les industriels. Bref, ce premier événement, c'était l'occasion de découvrir cette diversité de besoins, s'éduquer collectivement entre nous aux sensibilités des autres. Et puis, année après année, on va essayer de faire monter le niveau, d'aller essayer de trouver des consensus, des revendications communes.
Oui, effectivement, c'était l'intérêt, c'était de pas débattre, c'était de s'écouter déjà. Chacun pouvait dire quelque chose, la parole était libre, elle était courte, c'était 8 minutes chacun, et c'était très intéressant parce qu'on a vu la diversité. Mais le problème, il est à moitié posé. L'idée, c'est de le poser davantage et de le poser en regardant les faits. Il y a des études poussées qui sont faites et dont les résultats sont publics. Il y a des études qui s'appellent hydrologie. Usage climat, masse d'eau et usage climat, et on va regarder dans toute la Loire où on en est des rivières, quelles sont les quantités qui sont influencées par des petits barrages. On parlait de bassines, il y a pas de bassines dans la Loire, mais il y a énormément de retenues collinaires. Par exemple, sur le Gy, il y a 650 retenues collinaires qui sont faites principalement pour l'arboriculture. Il y en a d'autres sur la Loire. Voilà, on va regarder ces mesures-là. Et puis après, on se met autour de la table, mais en ayant dit, nous sommes d'accord sur le constat. Et tout récemment, il y a eu la commission locale de l'eau qui s'est réunie en préfecture. Les données de l'agence de l'eau Loire-Bretagne disent qu'il faut travailler avec un horizon avec moins 10% d'eau. Et puis la chambre d'agriculture présente ses études. Voilà, nous avons travaillé. Et notre demande est plus 25% d'eau. Donc entre plus 25 et plus 15, vous voyez la différence. Il faut voir le changement climatique non pas comme une catastrophe, mais comme une donnée à laquelle il va falloir s'adapter. Donc ça va être très intéressant qu'il y ait partage eau qui doit dépasser le stade de simplement constat. Et puis il ne faut pas rêver non plus, la commission locale de l'eau, elle ne va pas se transformer. On ne va pas d'un seul coup faire entrer 25 associations citoyennes. Par contre, c'est aux citoyens d'interpeller leurs élus, puisqu'ils les ont élus sur différents programmes, et notamment sur le sujet de l'eau. Quelles sont leurs positions? Quelles sont les évolutions qu'on peut amener? Ça, c'est les environnementalistes pour une part, mais aussi les autres citoyens qui peuvent dire, l'eau, il faut qu'on la reconsidère, et on vous a élu, mais on voudrait que vous nous disiez à la fois comment vous agissez, et puis qu'on modifie un petit peu les choses pour qu'on puisse faire face de façon sereine et non pas en s'aveuglant sur les données futures qui sont moins d'eau de toute façon, et surtout moins d'eau là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire pendant l'été. Parce que des fois, on dit, ah oui, mais il y a toujours autant d'eau qui tombe, mais elle ne tombe pas au même moment. Ben oui, mais quand on en a besoin, s'il n'y en a plus, c'est bien le problème. Hein. C'est quand même un fait que certaines communes ont vécu, le fait de citerner, c'est-à-dire qu'on va chercher avec des camions de l'eau potable pour emmener dans certaines communes de l'eau dans les citernes d'eau potable. Ça, c'est quand même un fait qui, depuis 2022, existe, qui s'est répété cette année. On ne peut pas continuer à dire, bah oui, on trouvera... Parce que tout bêtement, par exemple, il n'y a pas assez de camions qui peuvent transporter de l'eau potable dans la Loire. Voilà, ça, c'est un fait. Donc, comment on fait pour moins consommer d'eau et pour pouvoir faire face aux évolutions qui ne vont sans doute pas changer radicalement par rapport au climat que nous connaissons maintenant?
Alors, du point de vue de eau et services publics?
Oui, alors, je voulais dire un mot sur les perspectives. Eau et services publics n'est qu'un des membres parmi d'autres. Et ce que je peux dire, c'est que effectivement, à la suite du grand forum très réussi du 15 juin dernier, il y a eu un certain nombre de gens qui avaient envie de rentrer dans la dynamique et qui ont inscrit leurs coordonnées dans ce qu'on appelait une bulloterie. Et donc, qui sont des gens qui connaissent le problème, qui sont venus, qui ont envie d'approfondir. Et c'est déjà des forces vives qui vont nous permettre de préparer un prochain forum, probablement à l'automne 2024. Hein, et pour le coup, on n'a pas forcément le schéma tout fait. L'idée, précisément, à la suite de la méthode dont parlait Nicolas, de faire s'exprimer des gens, c'est effectivement de les réunir et donc déjà tous ces volontaires pour travailler ensemble seront réunis le samedi 27 janvier prochain pour créer des groupes de travail et sur des problèmes concrets. Alors on imagine par exemple que la question du partage de l'eau du canal sortira peut-être ou peut-être pas en fonction des gens qui voudront porter ça. Mais voilà, il y aura, on ne peut pas travailler sur toutes les questions, mais on a des méthodes pour faire remonter des exigences citoyennes fortes.
Alors, l'eau, on parle de sa quantité, on parle également de sa qualité, et on a un exemple sur l'Ondaine, effectivement, où les citoyens ne disposent pas au robinet d'une eau de qualité. Ici, qui agit? Comment? Et comment le partageau, est-ce que vous partageau agit dans ce sens-là? Il existe un collectif également qui s'est monté. Cette question-là de très locale, comment vous l'avez en tête? Comment vous la traitez?
La question qualitative, hein, je crois que Philippe en a dit un mot tout à l'heure, il y a des rapports qui sortent. Aujourd'hui, on découvre des micropolluants qu'on ne connaissait pas encore il y a peu de temps. On a entendu que les micropolluants polluent jusqu'aux œufs parisiens de façon très, très, très grave, et on ne le savait pas, et maintenant on le sait. Et donc, c'est les sols, en fait, qui sont pollués et qui peuvent polluer les nappes et les flux, etc. Donc, il va falloir surveiller davantage et être très transparent sur les données. Donc, Partageau va avoir un gros travail à faire, précisément, je l'évoquais tout à l'heure, sur le recueil des données, aussi bien quantitatives que qualitatives. Et il faut voir, il va falloir travailler avec les chercheurs, avec la recherche. Donc, on essaye de créer des partenariats citoyens, recherche, enseignement supérieur. Et puis, les politiques n'auront plus qu'à utiliser, institutionnaliser ce qui doit l'être pour si on fait du bon travail.
Je ne sais pas s'il y a des membres du collectif Ondaine-Eau ici présents, peut-être qu'ils s'exprimeront ensuite dans le cadre des échanges, mais j'ai vu, Michel Coudroy, pour Eau et Services Publics, que vous aviez participé, c'était fin octobre dernier, le 26 octobre, un rassemblement siège devant la Saint-Étienne Métropole. Alors, ça rejoint un peu la question tout à l'heure du mode de gestion, qui relève donc de l'agglomération. Quels ont été les peut-être débouchés suite tout d'abord à ce rassemblement, à éventuellement peut-être une délégation reçue par certains élus en charge de ces questions? Et en termes de gestion précisément, je crois que vous avez aussi l'ambition d'user du Code général des collectivités territoriales qui précisément envisage la création de commissions extra-métropolitaines pour aussi avoir un autre système de représentation. Alors qu'est-ce qu'il en est un petit peu à ce niveau-là où, suite à
Je rajouterai
ces actions.
Peut-être un mot tout à l'heure, mais Philippe est au premier rang aussi sur ce dossier. Donc je lui laisse volontiers la parole, je compléterai peut-être après.
Voilà, alors je dirais comme le vice-président à l'eau nous a dit, il n'a pas fermé la porte, mais on a mis le pied dans la porte pour la coincer. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas accepté cette création de commission en disant, nous sommes les élus, on a été élus pour ça, on se suffit. Et on leur dit non, ce sujet est tellement important, l'eau, qu'il faut que les citoyens soient plus impliqués et implicables. On ne demande pas de prendre le pouvoir, on demande d'être au courant. Donnez-nous plusieurs fois dans l'année, peut-être 3 ou 4 fois dans l'année, un petit temps d'échange. Il faut savoir quand même que la commission consultative des services publics, qui comme son nom l'indique n'est que consultative, elle traite le sujet de l'eau potable en 25 minutes. Comment voulez-vous en 25 minutes, une fois dans l'année, savoir ce qu'il en est de l'eau potable de 13 communes? C'est tout à fait impossible. Donc on leur dit, il faut nous donner du temps, parce qu'en plus, on le voit bien, quand dans l'Ondaine, les gens se sont organisés pour apporter des informations, ils étaient très contents d'avoir ces informations précises pour que leur service puisse travailler. Donc c'est bien intéressant d'avoir des gens qui s'impliquent. Ils le reconnaissent à certains moments, donc quitte à s'impliquer, eh bien donnez-nous de l'info plus souvent. Donc la chose est en cours, on va revenir à la charge parce que les sujets ne sont pas clos, et il faut absolument que les élus comprennent qu'on ne veut pas les enlever de leur pouvoir d'élu puisqu'on les a élus pour ça, quoi qu'on ait voté, et qu'ils nous donnent les moyens d'accéder à des informations qui nous concernent tous, parce qu'aussi quand il y aura des mesures qui seront prises en disant il faut faire telle et telle chose pour économiser l'eau, ou l'eau va monter de 10 ou de 15% sur votre facture, il faudra que les gens aient compris. Et là, ils seront peut-être bien contents d'avoir eu des gens en échange pour dire, voilà pourquoi on va procéder de telle et telle manière. Donc, La demande est faite. On n'a pas eu, pour le moment, de refus, mais on a eu une temporisation en disant on y réfléchit, on va y revenir. Et faites-nous confiance, nous, on va revenir à la demande parce que c'est pas le sujet de l'eau ne va pas s'éteindre. Au contraire, il va devenir de plus en plus important de s'impliquer donc au niveau citoyen.
Oui, le partage de l'eau, c'est quand même le partage au-delà de la compétence, de l'information aussi, de la transparence, c'est aussi une question politique et démocratique, hein, finalement. Vous l'avez évoqué d'ailleurs durant le forum Partage Eau, où il y a eu donc de multiples expériences et témoignages en termes politiques, justement, l'agglomération voisine, je dirais en banlieue stéphanoise, celle de Lyon, l'agglomération lyonnaise est précisément passée en régie publique et avec là un système aussi justement d'organisation, de gouvernance qui est complètement autrement.
Voilà, effectivement, là-dessus, c'est intéressant de voir que des très grandes collectivités se sont séparées de leur opérateur, qui dégageait des marges considérables, et ces marges qu'on n'a plus à fournir à l'opérateur, eh bien, on va les mettre dans la qualité du réseau, on va les mettre dans un droit à l'eau qui sera écrit noir sur blanc et qui permettra aux gens d'avoir une eau de qualité, et puis à un tarif qui sera simplement pour payer le service et non pas pour dégager une marge qui est durable. Parce que les grands marchés de l'eau qui sont longs, hein, c'était 30 ans pour Saint-Étienne le marché qui s'est arrêté. Maintenant, c'est sur 13 ans le marché en cours avec la filiale de la SOR. 13 ans, c'est une rente pour les investisseurs qui disent de toute façon, ça ne rapporte pas beaucoup, mais on est sûr que pendant 13 ans, tous les ans, on aura notre petite marge qui va être là. Et nous, on trouve en tant que citoyens, que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ceci dit, la régie, ce n'est pas toujours l'idéal parce qu'il faut une régie de qualité. Il faut avoir des compétences, il faut des gens bien impliqués, il faut des personnels qualifiés, y compris des personnels territoriaux. Et il y a aussi dans les métiers, des gens, quand on parle de métiers qui ont du sens, dans toutes les filières, il y a des gens qui s'engagent dans les métiers de l'eau qui sont extrêmement importants. Il faut qu'on ait des personnels qualifiés, qu'ils soient privés ou publics, sur les services de l'eau.
Oui, et puis juste importance aussi de collectifs et d'associations telles Eau et Services Publics qui, quand même, on le rappelle, hein, s'est créé dans les années 90 au moment où il était quand même question de délégation de l'eau au privé à Saint-Étienne. Hein. Alors désormais reconstitué, un petit peu renouvelé, mais dans l'idée quand même de porter toujours cette idée du bien commun qu'est l'eau aussi dans la métropole.
Alors nouvelle venue sur cette table ronde, effectivement, pour témoigner du quotidien, du concret. Alors, présentez-vous. Pour ceux qui vous voient arriver.
Alors, je suis Claire Mallet, coordinatrice du collectif Ondeno, dont Philippe a parlé tout à l'heure. Le collectif a été créé en avril 2023. Il regroupe des habitants des différentes communes de l'Ondaine concernées par des problèmes d'eau, donc principalement Unieux, Firminy et Fraisse. La problématique, c'est des habitants qui rencontrent des problèmes d'eau colorée ou un goût et une odeur horribles et qui concrètement ne peuvent pas se servir de l'eau au robinet au quotidien.
Et qui se retrouvent contraints donc d'acheter de l'eau empaquetée, en bouteille, etc. On en parlait tout à l'heure avec des chiffres. Un ratio pour une famille de 4 personnes, si l'on n'utilise que des eaux embouteillées, c'est 1000 euros à l'année, c'est ça, hein, sur une consommation, contre 12 euros. Donc on est quand même dans une inégalité aussi sur le territoire par rapport à cette utilisation de ce bien commun.
Effectivement, d'autant plus aujourd'hui avec les problèmes d'inflation qu'on peut connaître partout en France. Il y a sur cette problématique, en fait, il y a différents paramètres qui interviennent. Il y a les sécheresses qui font que les niveaux de barrage sont bas et du coup, plus on pompe l'eau à un niveau faible, plus il y a de dépôts et de déchets donc qu'il faudra traiter par la suite. Il y a aussi la problématique de la station de potabilisation, qui est la station de potabilisation des 80 qui nous dessert et qui était vétuste. Donc là, la métropole a engagé des travaux. Et puis, il y a aussi les canalisations qui sont vétustes. Et là aussi, des travaux ont commencé à être engagés, mais il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres de réseaux à changer.
Oui, juste pour préciser, apparemment, le Saint-Étienne Métropole va procéder à ces purges sur le réseau, donc des travaux qui ont commencé, si j'ai bien saisi, le 21 novembre, cette semaine, jusqu'à décembre, mi-décembre prochain. Apparemment, il y a des mises à disposition de précisément de packs d'eau qui seraient disponibles en mairie. Alors, je voulais avoir votre avis pour le collectif, puisqu'il serait distribué pour les habitants concernés. Mais le problème, il est que aucun recensement n'a véritablement été fait. Comment on a pu repérer, recenser ces foyers concernés et donc témoins sur cette problématique?
Alors justement, nous, on a mis en place un formulaire en ligne pour que les gens puissent témoigner des problèmes qu'ils rencontraient, et notamment en indiquant leurs adresses. Donc grâce à ce travail-là, qu'on a transmis après à la métropole, ils ont pu établir des zones de priorité avec des rues, des quartiers plus impactés que d'autres. Et donc c'est comme ça qu'ils ont défini des zones de priorité où il y avait des travaux à effectuer le plus rapidement possible. Et donc les travaux, c'est une chose, mais on sait que ça prendra des années. Donc effectivement, la solution aujourd'hui la plus immédiate, entre guillemets, qu'ils peuvent proposer, c'est les purges. Et à Fraisse, notamment, les purges ont commencé. À Unieux et à Firminy, les plans de purge sont encore à l'étude. Mais voilà, il y a des distributions de packs d'eau qui sont faites pour les personnes qui rencontreraient des problèmes liés à ces purges. Mais nous, notre demande, celle qu'on porte, c'est qu'il y a des packs d'eau qui soient distribués à tous les foyers qui rencontrent les problèmes au quotidien et pas seulement pendant les purges, parce que c'est inadmissible qu'on ait une eau, comme disent les élus, potable mais non buvable.
Oui, et puis surtout, c'est le problème des responsabilités. Donc le réseau semble vieillissant, donc les travaux, certes, vont être effectués, mais on ne sait même pas si de toute façon ça va être la solution au problème. Mais mettre des packs d'eau à disposition, c'est une chose, mais en revanche, le consommateur et le citoyen payent. Est-ce que là, il y a des aménagements prévus aussi dans ce cadre-là? Parce que c'est aussi une façon de faire payer, je dirais, mais à de multiples niveaux.
Oui, c'est justement les demandes qu'on a portées avec le collectif, mais pour l'instant, il y a une fin de non-recevoir sur le geste sur la facture d'eau. Donc effectivement, c'est la double peine pour les gens, parce que non seulement ils ont une eau au robinet qu'ils ne peuvent pas utiliser, mais ils payent en plus la part fixe de l'abonnement et tout ce qui va avec, en plus d'acheter des bouteilles d'eau en plastique.
On paye dans le cas de vent, quoi, finalement.
Alors là, on a un exemple de mobilisation citoyenne, mais à partir d'un constat et d'un problème. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre les citoyens ensemble et amener plus de responsabilités, plus de visibilité, de transparence. Partageau, on est un exemple. Est-ce qu'il y a en France d'autres collectifs aussi? Et est-ce qu'on peut imaginer un collectif national à cet égard-là?
Alors, il y a plusieurs associations qui, au niveau national, traitent de l'eau. Moi, je suis à France Nature Environnement. Il y a un groupe eau et on échange des informations entre tous les départements. Et puis, la notion de eau bien commun, il y a des associations qui portent le même nom, justement, qui est cette expression fondamentale de dire que l'eau, c'est pas une marchandise, c'est un bien vital. Et dans ce cas-là, c'est un bien commun qu'il faut considérer avec beaucoup plus de respect que ça l'est des fois avec la marchandisation rampante ou très, très poussée dans d'autres pays. Heureusement, on est à l'abri de ça. Mais il faut voir qu'il y a des endroits ailleurs qu'en France où des gens vendent de l'eau comme si c'était des cailloux dont ils soient propriétaires. Ça, c'est extrêmement dangereux. On est à l'abri de ça, heureusement, mais aussi on échange et il faut que les gens qui s'intéressent à l'eau soient plus nombreux à s'exprimer, que ce collectif ne soit pas considéré comme des groupes d'un peu de scientifiques ou de curieux ou de passionnés de l'eau. C'est des gens qui portent simplement l'attention à ce bien commun qui est l'eau. Alors j'en profite parce que j'ai ce que d'oublier après. France Nature Environnement organise début décembre une semaine sur l'eau avec différents temps de conférences sur ces différents sujets. Qu'est-ce que c'est qu'une rivière? Qu'est-ce que c'est que le réseau dans la Loire? Il faut s'informer, il ne faut pas hésiter à demander des informations aux élus. Et puis, c'est quand même passionnant. Il y a aussi des ouvrages de vulgarisation qui sont très intéressants et très bien faits sur ce sujet, qui permettent en assez peu de temps de comprendre la problématique qui nous concerne tous.
Oui, la mobilisation citoyenne sur l'eau progresse en France et pas seulement en France. Alors, juste pour dire que si Lyon a réussi récemment à passer en régie publique, c'est grâce à une mobilisation des citoyens qui a duré 15 ans et était très efficace. Et puis, au-delà de ça, même, il faut savoir que en Italie, à Naples, par exemple, il y a eu... une grosse mobilisation ABC, hein, Aqua Bene Comune, qui a été à l'origine d'une réflexion complète sur la constitution et sur la notion même de bien commun. Donc l'eau est tellement vitale que c'est à la limite effectivement un bon exemple pour comprendre ce que c'est comme bien commun et comprendre comment il est tellement inenvisageable de faire de l'argent là-dessus qu'il faut la gérer en tant que telle. Et ça demande y compris des réformes constitutionnelles.
Nicolas ?
Oui, si aujourd'hui on s'intéresse tous à la question de l'eau, c'est évidemment, on n'a peut-être pas assez prononcé le mot aujourd'hui, c'est dans le cadre du réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique va toucher notre département, évidemment pour cette question de l'eau qui est au robinet, en quantité, en qualité, mais au-delà de ça. Et le Forum Partage Eau veut aussi s'intéresser à l'avenir de nos arbres. Est-ce que le chêne pédonculé aura de l'avenir dans la Loire ? À l'avenir de nos poissons ? Est-ce qu'il y aura encore des truites dans les rivières de la Loire si elles sont à sec 2 mois par an et si leur température augmente ? Quel est l'avenir de la faune, de la flore, des insectes, les arbres, la filière sylviculture ? Est-ce que le Douglas qui fait tourner plein de scieries dans la Loire aura-t-il de l'avenir dans le cadre de ce réchauffement climatique ? Donc, ce forum partage eau, il veut poser la question de l'eau que l'on reçoit, mais également des impacts que ce manque d'eau a sur l'ensemble des domaines du vivant, du domaine de l'industrie, du tourisme. En fait, c'est vraiment globalement qu'il faut envisager cette question de l'eau.
On arrive à la fin de cette discussion autour de l'eau. On rappellera les prochains rendez-vous, notamment pour Partage Eau. Mais on profite également de notre présence ici sur Tatou Juste avec le public. Si vous avez des questions, des précisions, si vous voulez commenter ce que vous venez d'entendre, on vous fait passer un micro. D'ici quelques secondes, voilà, changement de micro. Allez-y.
Oui, donc je m'appelle André Moulin, j'ai été pendant jusqu'en 2014 adjoint à l'eau à Saint-Chamond, eau, assainissement et barrage, puisqu'on avait des barrages. Et ma réflexion, les choses ne plus ont évolué. À l'époque, c'était le syndicat des eaux de Saint-Chamond-l'Orme, qui couvrait 40 000 habitants, qui gérait avec une délégation à Veolia. Et qui était assez serré. Hein. En tant qu'élu, moi je sais qu'on avait des réunions trimestrielles. On se disait toujours pas toujours des choses aimables avec Veolia, mais grosso modo ça a fonctionné. Et nos prédécesseurs avaient fait des investissements. Nous après on a fait des investissements. Et après il y a eu la remontée de compétences à Saint-Étienne Métropole, donc hein, où il n'y a pas eu beaucoup d'opposition. Quand cette remontée de compétences, puisque ça a été présenté comme quelque chose de bien, etc. Le problème des remontées de compétences, c'est qu'on s'éloigne du citoyen, du consommateur, et après, c'est un truc qui est là-haut, un machin, pas seulement pour l'eau d'ailleurs, hein. C'est un machin, et il n'y a pas beaucoup de prise par rapport à ce qui s'est passé à London, c'est un exemple, hein. C'est-à-dire, il y a des élus qui disent, nous, on est élus, c'est nous qu'on tient les cordons de la bourse, c'est nous qu'on vote. Sauf que beaucoup d'élus ne font pas l'effort, je le dis dans ce domaine, mais dans d'autres aussi, d'aller sur le terrain, de comprendre un certain nombre de choses, d'être ici pour écouter un peu ce qui se passe. Et résultat des courses, c'est... En tant que consommateur, on a peu de prise. Parce que, je ne sais pas si vous avez assisté à des réunions de Saint-Étienne Métropole, la réunion plénière de Saint-Étienne Métropole, où sont examinés les dossiers. Il y a un paquet comme ça de dossiers. Chaque fois, bon, tout est prévu à l'avance. Ça dure 2 minutes par dossier. Hop, le vote, pas le machin. Parfois, il y a 2 ou 3 trublions qui interviennent pour dire des choses, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et c'est, je caricature à peine, hein, allez-y, vous verrez comment ça se passe. Et donc, du coup, je dis, moi, que la remontée de compétences, ça peut être un plus, ici ou ailleurs, d'ailleurs, parce que ça fait, en réalité, le jeu des Veolia, Suez et compagnie, qui, eux, et quant aux régies, quand c'est encore plus difficile pour faire une régie. Voilà.
Et puis même si je ne me trompe pas, ça uniformise quelque part, parce qu'il me semble que de par la compétence agglo désormais, certaines communes qui étaient en régie publique n'ont plus eu la possibilité de pérenniser le système.
Alors
leur délégation. En tout cas.
Voilà, c'est la loi effectivement qui a permis de choisir quelles compétences étaient gérées au niveau métropolitain. Ils le prenaient ou ils le prenaient. Et le rôle des citoyens, c'est de dire quels sont vos services, quelles sont vos capacités en tant qu'éléments territoriaux de suivre le délégataire. Donc nous, on pose régulièrement ces questions au niveau de services publics. Quel est votre organigramme? Combien avez-vous d'agents? Sont-ils en mesure de suivre le marché? Des fois, on a des réponses un petit peu ouvertes, mais d'autres fois, on nous dit, bah oui, mais on va recruter, etc. Et il faut absolument que les citoyens soient sûrs, même si c'est devenu en délégation de service public, que les territoriaux sont en capacité d'avoir les compétences. Alors, il y a quand même une notion positive sur l'Ondaine. Il va y avoir une régie regroupant plusieurs communes et il y aura des agents qui auront les qualifications pour faire du jour au lendemain une analyse d'eau. Ça, c'est une victoire aussi du collectif indirectement qui fait de dire il nous faut des compétences, il faut qu'on sache comment fonctionne notre réseau. Et là, c'est un contre-exemple, c'est un exemple de régie où il y aura des compétences d'agents territoriaux qui pourront rapidement dire, voilà, l'eau tel jour, elle avait tel aspect. C'est ce genre de mesure qu'il faut que l'on obtienne pour suivre la qualité de l'eau.
Alors, un exemple de mobilisation qui marche, pour le coup, concrètement, voilà, un collectif qui se monte et une réaction qui arrive derrière. Alors, peut-être pas au niveau de la demande, mais une petite réaction, en tout cas. Partageo, c'est un prochain rendez-vous. On appelle encore à venir des citoyens. Est-ce qu'il y a une volonté vraiment d'ouvrir et comment on peut participer finalement aux réflexions autour de Partageo?
Alors évidemment, on cherche toujours des forces vives pour nous accompagner. J'invite tout le monde, mais Jean-Pierre va le dire mieux que moi, à aller sur le site des Amis du Treuil, puisque c'est la ferme du Treuil à Chambœuf qui héberge le forum Partageo. Jean-Pierre.
Oui, quelques informations. Donc, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, Philippe et Michel aussi, la première année de Partageo, c'était quelque part de donner des informations aux citoyens de la part d'utilisateurs, d'industriels, de paysans. Mais les citoyens n'ont pas eu beaucoup la parole. L'objectif cette année qui vient, 2024, c'est de mettre les citoyens au centre de du débat et de la place publique, en quelque sorte. Et donc, le prochain forum Partageo, dont il a été dit, qui risque d'être à l'automne 2024 sera précédé d'un certain nombre de groupes de travail, d'ateliers participatifs ouverts aux citoyens. Donc on va d'abord lancer en janvier prochain un atelier d'intelligence collective avec les 50 ou 60 personnes qui avaient laissé leurs coordonnées à Partageo en juin. On va déterminer ensemble des problématiques, des sujets principaux, prioritaires, et à partir de là, de mettre en place des groupes de travail dans plusieurs coins de la Loire. Ça se passera pas tout au Treuil, puisqu'actuellement le nouveau forum Partageo est porté par un collectif de 8 associations. Il y en a dans le Roannais, notamment en Bière, le CPIE de Mar, le Hélios, le Treuil, le CTC 42, le GDAFAL, Graines, et ainsi de suite. Donc il y a tout un collectif qui est présent sur l'ensemble du département de la Loire.
J'avais une petite question parce que, vous dites le nouveau Partageo. Je voulais savoir, parce que j'avais eu écho que sur la Loire se tenait une journée thématique également sur cette question sensible de l'eau qui s'appelait Aquarévolte, qui se tenait chaque année depuis ces dernières années. La dernière, en tout cas de celle dont j'avais eu écho, était un 15 juin également, donc le même jour, même date que le dernier forum. Est-ce que vous avez écho? Est-ce que c'est une même initiative rejointe ou conjointe ou absolument pas?
Non, on a le 15 juin, il y a eu vraiment le colloque, enfin le forum Partageo qu'on absolument avait porté pendant un an, mais il n'y a pas eu de lien, donc on ne connaissait
avec
pas.
Cette...
Non. Ok. Mais après, tous les liens sont possibles.
Ouais. Si.
Non, je complète les infos. Effectivement, dans cette démarche de dire en différents espaces du territoire, on va intéresser des gens à cela. Effectivement, j'annonce que le vendredi 15 juin, à Feur, à initiative du comité citoyen de Feur, il y aura une soirée thématique sur l'eau. Donc l'idée est celle-là aussi, aller dans différents endroits du territoire pour pouvoir échanger, donner des éléments simples, et puis que les gens après continuent en disant ah, bah, c'était bien, on rentre chez soi, quelle est mon eau, comment je m'implique. C'est important qu'on diffuse et qu'on répète ces temps de communication autour de ce thème, l'eau bien commun.
Le 15 juin
Le vendredi 15, pardon, 15
décembre
pardon.
Ouais, okay.
C'est le, voilà, je reprends. Très le bien. Vendredi 15 décembre, pardon pour mon étourderie, vendredi 15 décembre, à l'initiative du comité citoyen de Feur, une soirée sur l'eau.
Alors, cette table ronde touche à sa fin. Beaucoup d'informations et des événements qui seront relayés sur les antennes de Radio Dio et de Radio Ondaine. Merci d'être venu participer ici à cette table ronde autour de l'eau, un bien commun, une discussion qui se prolongera, bien sûr.